Cap Sport. 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 Jusqu'à 19h. Cap Sport.
Cap Sport, on est ensemble jusqu'à 19h comme chaque vendredi, votre magazine d'actu 100% sport. Aujourd'hui, on va parler de retour, celui des vice-champions du monde de hockey sur glace par exemple. Et oui, l'équipe de Suisse retrouve la compétition la semaine prochaine, plus de 5 mois après sa finale face à la Suède en dernier mondiaux. La Nati rechausse les patins pour la Deutschland Cup qui se jouera la semaine prochaine avec 3 joueurs du HC Bienne dans la sélection, s'il vous plaît. On verra avec Christophe Wahl s'ils peuvent se faire une place à long terme dans ce contingent. Autre retour au premier plan, celui de Roger Federer. Le Ballois vainqueur des Swiss Indoors de tennis la semaine dernière en quart de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Il jouera d'ailleurs ce soir. Faut-il croire à une 100e victoire en tournoi d'ici la fin de l'année pour celui qui en détient déjà 99? On posera la question à notre consultant tennis Alexandre Strambidi. Et puis là, ce n'est pas un retour, mais c'est plutôt une première. Lara Goute sur grand écran dans un documentaire diffusé en avant-première roman d'hier à Delémont. Ça s'appelle Looking for Sunshine. Mathieu Schaffner de la rédaction des Sports est allé le voir. Il viendra nous dire si ça vaut le coup d'œil et si on y apprend des petits secret intéressant. Mais avant la neige, on part sur la glace.
Cap Sport, Jérémy Pignard.
Et ça y est, ils sont bientôt de retour, nos vice-champions du monde de hockey sur glace. L'équipe de Suisse retrouve la compétition la semaine prochaine à l'occasion de la Deutschland Cup. Souvenez-vous, fin mai, on a vécu ça.
Les cinquièmes tireurs de part et d'autre vont s'élancer. Niederreiter n'a pas le choix, il doit marquer. Niederreiter, et c'est terminé, la Suède garde son titre de championne du monde. Grosse déception évidemment pour l'équipe de Suisse.
Et terrible de se replonger dans ce souvenir, ils sont passés si près, ça reste quand même une des plus belles pages du hockey suisse. Mais maintenant on va se pencher sur la suite avec Christophe Wahl, notre consultant. Salut Christophe.
Hey Jérémy, comment ça va?
Ben ça va très bien, merci. Christophe, peut-être avant d'évoquer la présence de 3 joueurs du HC Bienne dans la sélection, on va parler du retour à la compétition de l'équipe de Suisse. Premier match jeudi prochain, le 8 novembre, ce sera contre la Slovaquie. Ensuite, il y aura l'Allemagne, le pays hôte le 10 novembre, puis la Russie tenante du titre le lendemain. Christophe, qu'est-ce qu'on doit désormais attendre de cette équipe de Suisse avec, si j'ose dire, son nouveau statut depuis les derniers mondiaux?
Ouais, je pense qu'il faut mettre un petit peu ça de côté, hein. Vice-champion du monde l'année passée, c'était vraiment inespéré. Ils ont proposé du bon hockey, mais c'est surtout pour maintenant l'entraîneur à refaire une nouvelle saison et avec des nouveaux joueurs, surtout tous les internationaux qui sont outre-Atlantique ne sont pas là, comme toutes les équipes d'ailleurs, hein, pour cette Deutschland Cup.
Effectivement.
Donc c'est à lui d'aller chercher maintenant les meilleurs joueurs suisses évoluant en Suisse pour fabriquer quelque chose jusqu'au mois de mars.
Et justement, il n'y a que 6 survivants hein, dans cette sélection de Patrick Fischer par rapport aux derniers mondiaux. Du coup, à quoi elle doit servir cette Deutschland Cup pour Patrick Fischer? Parce qu'avec les derniers mondiaux, on est quand même dans une phase de transition et retomber dans des résultats décevants qu'on avait connus auparavant, ce serait quand même mal perçu, Christophe.
Ce serait mal perçu peut-être, mais c'est surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'entraîneur avec quelques néophytes aussi, hein, qui apprendront le niveau international, puisque c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Et aux joueurs qui étaient déjà là au dernier championnat du monde, de pousser ces jeunes et de les faire monter de niveau pour que, pourquoi pas déjà cette année, mais surtout les prochaines années, qu'ils soient au top.
Donc en gros, c'est une revue d'effectifs pour tester les potentiels pour l'avenir.
Oui, c'est exactement ça. Et comme chaque année, et comme toutes les nations qui sont un petit peu partout pour faire des tournois.
Et ben justement, Christophe, je vous propose d'écouter Stéphane Rochette, l'ancien arbitre international canadien, qui aujourd'hui est spécialiste du hockey suisse lui aussi, et qui voit d'un bon œil cette manière de gérer l'effectif pour Patrick Fischer.
Oui, moi je pense que c'est très bien. Ça donne une idée du potentiel de ces jeunes-là. Ça leur fait sentir un peu, renifler un peu le niveau international. Vous savez, quand on met les maillots de l'équipe nationale sur le dos, ben on prend 2 centimètres, on prend quelques kilos, on prend aussi en confiance. Et puis les équipes sont contentes. Hein. Les équipes qui envoient des jeunes joueurs, qui ont des jeunes joueurs sélectionnés, ben ils reviennent avec le plein de confiance. Et puis c'est bon pour tout le monde. Et puis je pense que honnêtement, les dirigeants de l'équipe nationale se font aussi une excellente pub en gérant leur équipe comme ça.
Justement, parlons des jeunes, Christophe, parce qu'il y a 3 Biennois quand même dans cette sélection suisse. Le défenseur Samuel Kreis, 24 ans. Les attaquants Jason Fuchs, 23 ans. Et Damien Ria, 21 ans. C'est pas une première sélection pour eux. Ils ont déjà tous les 3 porté le maillot suisse. C'est logique de les voir là, Christophe, au vu du début de saison qu'on a vu d'eux et qu'on commente avec vous, justement, le HC Bienne.
Oui, c'est une suite assez logique, puisqu'ils ont déjà été appelés plusieurs fois pour mettre le maillot national. Aussi bien le défenseur Kreis qui a évolué encore de manière assez grande du côté de Bienne, puisqu'il avait beaucoup plus de temps de glace qu'à Berne. Donc lui, malheureusement, pour lui, il n'a pas été jusqu'au bout. Jason Fuchs, lui, il virevolte sur la glace avec ce qu'il a montré les deux, trois dernières années dans le championnat suisse. Il a tout à fait sa place aussi en équipe nationale, malgré son gabarit. Hein. Il est assez petit, mais il peut se faufiler très très bien dans les bancs. Donc c'est un faiseur de jeu. Et il va encore apprendre avec l'équipe nationale. Et aussi, bon, Damien Ria, on le sait, lui, c'est un sniper hein, devant le but. Il ne faut pas lui en mettre beaucoup de puck pour qu'il les glisse au fond. Donc pour lui, c'est aussi un bonus. Et surtout par rapport au début de saison de ces trois jeunes qui sont HC Bienne. C'est tout à fait logique et c'est peut-être aussi pour ça que le HC Bienne est en haut du classement actuellement.
Et pour Ria, seulement 21 ans et il était déjà au dernier mondiaux, évidemment avec un temps de glace réduit, mais il est encore là. Par contre, la question qu'on peut se poser finalement, parce que maintenant la prochaine grande échéance, évidemment c'est pas la Deutschland Cup, c'est les mondiaux en Slovaquie en mai 2019. Est-ce que ces trois-là, Christophe, selon vous, ils ont le potentiel pour espérer prétendre une place dans le contingent, sous-entendu quand les Américains de NHL reviendront aussi dans le groupe?
Oui, alors bien sûr, ils auront le potentiel pour y arriver. Ils ont pris de la bouteille en faisant ces matchs-là à la Deutschland Cup qui pourront acquérir ce niveau. Et puis, allez savoir combien de joueurs suisses outre-Atlantique se présenteront pour l'équipe nationale au mois d'avril l'année prochaine. Hein. Il y en aura peut-être un peu moins que l'année passée. Donc, on a besoin absolument de ces joueurs qui évoluent en Suisse.
On a pris aussi l'avis de Stéphane Rochette sur le sujet. Écoutez-le, il est plus sceptique sur la capacité de ces trois-là à figurer aux prochains mondiaux dans la sélection suisse.
Là, ça va être plus compliqué. Hein. Donc, ces joueurs-là auront de la place s'il y a peu de joueurs de NHL qui viennent. Si tous les joueurs de NHL sont là, ça reste compliqué. Kreis, son gabarit, en Liga, ici, ça va. Mon niveau international, c'est plus compliqué. Hein. Il n'est pas si grand que ça pour un défenseur. Il n'est pas si gros que ça. On sait que Patrick Fischer veut des gros et des grands défenseurs. Ça risque d'être problématique pour Kreis. La même chose pour Fuchs. Ça reste un petit attaquant, très efficace en championnat suisse. Mon niveau international, si les joueurs de NHL sont là, compliqué. Damien Ria, par contre, comme 12e, 13e attaquant, peut être utilisé sur le power play, peut shooter le puck, peut-être. Mais, évidemment, ces joueurs-là, c'est bien de les prendre parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive à la fin de l'année. Si Nashville va jusqu'au bout, si Colorado se fait en play-off, ces joueurs-là ont toute leur chance à ce moment-là.
On parle souvent, Christophe, depuis le début de saison, de l'évolution du HC Bienne, de son changement de catégorie, avec trois internationaux, quatre même si on compte Tony Raiala qui lui va jouer avec la Finlande. Est-ce que c'est un petit plus important? Est-ce que c'est significatif, important pour un club de National League qui est en train de grandir comme le HC Bienne, eh bien, d'envoyer des joueurs en sélection?
Oui, mais ça prouve surtout que le HC Bienne est une bonne adresse actuellement, hein, depuis les progrès que ce club fait depuis plusieurs saisons. On n'a pas peur de venir signer un contrat à Bienne, tandis que les autres années, on avait un petit peu peur. Regardez Ria, hein, qui à 21 ans a laissé son club d'origine de Genève Servette pour venir prendre encore beaucoup plus de glace ici à Bienne. Donc pour eux, ces joueurs-là, c'est une bonne adresse actuellement et pour le club, effectivement, d'avoir des joueurs qui vont faire une dizaine de jours avec l'équipe nationale et prendre du rythme, c'est tout bonus pour la suite du calendrier, du championnat.
Et ces trois joueurs que Martin Steinegger, le directeur sportif du HC Bienne, est allé chercher, est-ce que ça valide aussi son travail? On en a beaucoup qui louent actuellement les qualités de ce directeur sportif.
Ah ben ce directeur sportif là, dernièrement, il s'est pas beaucoup trompé sur les joueurs qu'il est allé chercher. Et le meilleur transfert qu'il ait fait pour moi depuis une douzaine ou 14 mois, c'est quand même l'entraîneur, hein, Antti Tormainen. C'était vraiment une bonne pioche pour question entraîneur. Et puis lui, il a choisi aussi les joueurs avec Tino. Et Tino, c'est tellement connu dans le hockey suisse. Il est très clair dans ses paroles. Il est très juste. Et donc, ça donne beaucoup de confiance aux joueurs qui sont venus ici signer à Bienne, tout comme Damien Brunner, qui lui ne sera plus, je pense, international, puisqu'il a pris un petit peu d'âge. Mais avec une jambe cassée au mois de février, on l'a vu, il a fait une bonne préparation. Il est dans l'échiquier de Tormainen et ça roule pour lui aussi. Donc, je pense qu'actuellement, le HC Bienne vit une super période et comme je l'ai dit tout à l'heure, les joueurs suisses n'ont pas peur de venir signer ici à Vienne.
Une dernière question, Christophe, vous qui avez été gardien, qui êtes spécialiste du poste, un mot sur Gauthier Descloux, qui est sélectionné pour la première fois, le gardien de Genève, passé par Ajoie d'ailleurs en Ligue B, on le connaît un petit peu dans la région, 22 ans seulement, vous qui connaissez le poste de gardien par cœur, c'est l'avenir dans les cages suisses, Gauthier Descloux?
Ah ben avec les progrès qu'il a fait, en ayant accompli un super boulot avec le HC Ajoie, et puis maintenant il a rangé un petit peu son frein du côté de Genève Servette, mais on a vu tout de suite que cette année, dès que Chris Max Orlé l'a mis dans la cage, il s'est super bien débrouillé. Il a fait des super matchs, c'est lui qui a ramené les points du côté de Genève.
Et il avait à un moment les meilleures stats en termes de tir tenu, hein, ouais, de pourcentage.
C'était assez énorme ce qu'il avait. Et donc il va encore prendre de la bouteille. Bon, alors c'est très jeune, hein, 22 ans, mais s'il a la chance d'évoluer au niveau international, on le sait, tout va beaucoup plus vite. Les shoots viennent aussi plus forts. Il y a de la masse devant son visage, devant ses yeux. Donc pour lui, ça sera une expérience énorme et je lui souhaite vraiment de pouvoir jouer quelques minutes lors de cette Deutschland Cup.
Et on lui souhaite aussi. Merci beaucoup Christophe d'être venu dans Cap Sport et puis on vous retrouve demain pour le derby bernois entre Bienne et le CP Berne.
Exactement Jérémy, c'est exactement ça.
Merci, reposez-vous bien d'ici là et on vous rappelle nous le calendrier de la Deutschland Cup pour la Suisse. Ce sera premier match contre la Slovaquie le 8 novembre, jeudi prochain, l'Allemagne le 10 et la Russie le 11.
Jusqu'à 19h. Cap Sport.
Et une fois n'est pas coutume, on va parler de cinéma dans Cap Sport parce qu'il y a Looking for Sunshine qui est sorti en avant-première romande hier à Delémont. Un documentaire sur la skieuse tessinoise Lara Gout aux origines jurassiennes par sa maman, on peut le préciser. Et Mathieu Schaffner, vous êtes allé le voir. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Jérémy.
Alors est-ce qu'on a déjà tout vu sur Lara Gout ou alors est-ce qu'on apprend des choses sympas dans ce documentaire? Le réalisateur Nicolo Castelli nous promettait la découverte d'une facette méconnue de Lara Gout. Est-ce que vous avez été servi?
Mais oui, clairement, on est clairement servi dans ce domaine-là. On apprend à la découvrir, j'ai envie de dire, au quotidien. Parce que le grand public, finalement, il la connaît sur les pistes, il la connaît à l'arrivée avec ses coups de gueule ou ses cris victorieux. Mais au-delà de ça, il ne la connaît pas vraiment, cette Lara Gout. Il connaît son caractère bien trempé, en tout cas, c'est ce qu'on nous montre d'elle. Mais on ne connaît pas son côté travailleur, on ne connaît pas toutes les facettes médiatiques qui se cachent derrière. L'aspect familial aussi, qui est très important, avec qui ressort dans ce documentaire, le lien très étroit qu'elle entretient avec son frère Yann, qui est aussi lui skieur. Du coup, il ne se voit pas beaucoup et elle le dit tout au long du film, c'est un personnage central dans sa vie. Donc effectivement, on en apprend pas mal quand même sur sa vie, les sacrifices qu'il y a à faire pour arriver à ce niveau-là.
Donc tout ça est tourné de façon très humaine, finalement, notamment sur sa manière de gérer la blessure qu'elle a eue après le titre. On découvre là presque des informations qu'on n'avait pas à l'époque.
Alors là, on découvre une autre Lara Gout. Là, il faut clairement le dire. D'ailleurs, le film commence sur cette citation-là de Lara Gout. Elle dit « 3 secondes après mon accident, je me suis enfin senti libéré ». Et c'est à la fin du film qu'on comprend cette libération. On en a eu l'exemple encore hier avec sa maman, Gabriella, qui a répondu à quelques questions, où finalement, on comprend qu'elle était arrivée à une telle surcharge que la tête n'y était plus. C'est le corps qui skiait et tout à coup le corps a compris que la tête n'y était plus et a dit stop. C'est clairement ça. Et la maman de Lara disait encore, finalement avant ces championnats du monde, parce qu'il faut remettre un peu dans le contexte, l'année 2015-2016, elle gagne le Grand Globe de Cristal du classement général de la Coupe du Monde. Du coup, forcément, encore davantage de médias qui s'y en intéressent. Elle a un triple désavantage, Lara Gout, c'est qu'elle est plutôt jolie, donc on s'y intéresse. Elle est très forte dans son sport, on s'y intéresse encore. Et en plus, elle parle le français, l'allemand, l'italien et l'anglais. Donc tous les médias se l'arrachent.
Et encore en plus, il y a les championnats du monde dans son pays qui arrivent l'année d'après.
Et voilà, elle arrive dans des championnats du monde en Suisse. On attend d'elle 4 médailles d'or. Du coup, il y a une énorme pression. C'est en fin de saison. Et elle arrive là, elle le dit, elle était complètement cramée. D'ailleurs, une dizaine de jours avant, elle prend une des dernières portes sur un Super G à Cortina qu'elle est en train de dominer. Et depuis là, elle parle avec sa famille, elle dit « mais je ne peux pas faire ces championnats du monde, j'en peux plus, il faut que j'arrête ». Et elle est face au politiquement correct d'arriver devant la fédération et de dire « je dois arrêter, je ne peux pas aller à ces championnats du monde ». Mais en même temps, c'est en Suisse, il y a tout le pays qui attend de moi 4 médailles, donc je suis obligé d'y aller. Et du coup, la famille dit très humblement « on savait que ça allait lâcher, on ne savait juste pas quand ». Et c'est avec cette blessure qu'elle aussi a compris, a fait un travail sur elle-même pour se dire « il faut peut-être que je pense d'abord à moi avant de penser à ma performance, à mon sport ». Et je pense que, en tout cas, sa maman le disait, ça, on risque de voir une nouvelle Lara maintenant, que ça soit sur les skis, mais aussi aussi apparemment dans les déclarations qu'elle fera peut-être, ça sera peut-être un peu moins calculé.
Looking for Sunshine, ça vaut le coup d'œil ?
Clairement, ça vaut le coup d'œil. Oui, oui. Si vous aimez un petit peu le sport, si vous connaissez un tout petit peu le ski alpin.
Si vous êtes fan de Lara.
Et en plus, si vous êtes fan de Lara. Clairement, si, ça vaut le coup d'œil. C'est une belle découverte. Et puis, si vous ne connaissez pas beaucoup le monde du sport, bah, clairement, vous en apprenez aussi. Vous voyez comment un athlète doit baver finalement pour en arriver à ce niveau-là.
Alors, maintenant que vous avez mis l'eau à la bouche de nos auditeurs, où et quand ils peuvent aller le voir ?
Alors, dès le 21 novembre, c'est la sortie officielle partout en Romandie.
Donc vous avez été un des privilégiés. Merci beaucoup Mathieu d'être venu nous raconter votre aperçu de Looking for Sunshine. On parle tennis maintenant.
Cap Sport.
Avec cette question, est-ce que Roger Federer peut gagner son 100e tournoi avant la fin de l'année ? On en rêve, on l'espère, depuis qu'il a remporté les Swiss Indoors à Bâle la semaine dernière. C'était sa 99e victoire en tournoi ATP de sa carrière. Derrière ça, Roger s'est aligné au Masters 1000 de Paris-Bercy. Il n'a même pas eu à jouer en 16e de finale, puisque Miloš Raonic, son adversaire, a déclaré forfait. Le numéro 1 mondial, Rafael Nadal, est forfait aussi. Federer a gagné hier soir son 8e de finale contre l'Italien Fabio Fognini en 2-7, 6-4, 6-3. Et il affrontera ce soir le Japonais Kei Nishikori en quart. Jusqu'où il peut encore aller, mais il a peut-être sa petite idée, lui qui connaît bien Roger. Bonsoir Alexandre Strombini.
Bonsoir.
Vous êtes ancien joueur. Quand vous voyez cette fin de saison avec Bercy, puis le Masters dans 10 jours, et que certains gros commencent à flancher, est-ce que vous vous dites un petit peu comme nous, finalement il y aurait un coup à jouer pour Roger Federer ?
Bon, quand on s'appelle Roger Federer, il y a effectivement toujours un coup à jouer. Il y a toujours un coup à jouer, ça c'est évident. Par contre, il a quand même un petit peu peiné sur balle. Hein. Il a effectivement gagné son 99e titre, mais dans la douleur. Hein. C'était pas tout simple.
Effectivement, il a galéré, si on peut dire ça comme ça, contre Gilles Simon. Il a été poussé dans le troisième set. Et puis même en finale contre Copil, même si ça se joue qu'en 1h30, il s'en sort parce qu'il est meilleur dans les moments très chauds et cruciaux. Mais sinon, il y a match.
Non, tout à fait. J'ai eu la chance de regarder le quart de finale contre Simon. C'est vrai que quand on connaît un petit peu, la balle ne sort pas de la raquette comme on a l'habitude de voir. Il y a quand même au niveau des jambes, il y a un manque par rapport à ce qu'il peut faire d'habitude. Donc il n'est pas, à mon avis, il n'est pas au top de sa forme. Quoi. Donc après, quand il jouera déjà typiquement ce soir contre Nishigori, ce sera un grand test pour lui. Parce que là, il est face à un adversaire très sérieux et je pense que ce sera un très bon test pour savoir après pour la suite s'il a les cartes en main pour aller plus loin dans le tournoi.
Alors pourtant, Alexandre Strombini, Roger Federer dit lui-même qu'il se sent bien physiquement. C'est ce qu'il nous a dit à Bâle après sa finale. C'est pour ça qu'il a décidé de s'aligner au Masters 1000 de Paris-Bercy. Comment il faut comprendre ces déclarations du coup par rapport à ce qu'on est en train de voir avec nos yeux ?
Ben, vous savez, j'entends dans les communications presse, j'entends des joueurs, enfin des sportifs du calibre de Federer, ils vont pas aller vous dire en conférence de presse que j'ai un souci à gauche ou à droite. Hein. Ils vont toujours dire qu'ils se sentent bien, et puis par derrière, ils vont essayer de soigner les petits bobos, s'il y en a. Et maintenant, si lui, il a joué Paris-Bercy, c'est qu'il se sent capable de le faire, ou c'est qu'il doit mettre quelque chose en place en prévision du Masters qui se jouera à la fin du mois. Et donc, il sait très bien ce qu'il fait. Mais est-ce qu'il est effectivement à 100% de ses moyens physiques ? Personnellement, j'en doute un petit peu.
En même temps, il a moins joué que ses adversaires cette saison parce que tous les autres, ils sont aussi, entre guillemets, quasiment cramés. Et c'est le problème à l'arrivée du Masters, c'est que les meilleurs ont joué beaucoup de tournois. Du coup, ils sont tous à égalité au ce niveau-là ou pas tout à fait ?
Bon, oui, il a moins joué que les autres adversaires, mais je reviens toujours avec ça, il a 37 ans. Hein. Donc à 37 ans, on a beau moins jouer, un match en 3-7 en plus de 2 heures de temps, ça laisse des traces. Hein. Donc c'est pas évident à cet âge-là de récupérer pour pouvoir continuer et enchaîner des matchs à ce niveau-là. Donc ça sera forcément et logiquement beaucoup plus dur dans le futur pour lui, pour enchaîner ce genre de compétition.
Alors évidemment, après sa victoire à Bâle, la 99e, on spécule sur la possible 100e. En tout cas, Roger Federer, il semble se mettre aucune pression pour le Masters 1000 à Paris. Écoutez l'une de ses réactions après sa victoire hier soir en 8e de finale face à l'Italien Fognini.
D'un coup, tu vois, déjà en quart, tu peux peut-être viser plus loin, même si je ne vais pas commencer à la faire, parce que honnêtement, je n'ai pas eu de la préparation. Je viens d'arrêter de penser à Bâle et je suis déjà à Bercy. Voilà. Alors, j'essaie vraiment de jouer un peu ce tournoi sans pression, de voir ce qui se passe avec pas de grandes attentes. Tu veux juste bien faire, tu essaies le maximum, mais si ça marche bien, bah super, si ça marche pas bien, bah tant pis, bah t'as essayé de jouer peut-être un peu décontracté de ce côté-là. Tout d'un coup, ça me permet de trouver quelque chose dans mon jeu qui peut m'aider pour Londres.
Voilà, il cherche des certitudes avant d'aller à Londres. Alexandre, vous qui l'avez vu jouer à Bâle la semaine dernière, comme nous, sur ce que vous avez vu, les secteurs, alors évidemment il y a le physique, mais les autres secteurs du jeu sur lesquels il doit encore progresser. On l'a vu parfois un petit peu chaotique au service, ça s'est amélioré en cours de tournoi.
Ben voilà, dans ce qu'on vient d'entendre de Roger, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est qu'il cherche des solutions. Il a joué Paris-Bercy pour mettre des choses en place pour le Masters de Londres. Après, dans le jeu, pour répondre à votre question, tout est lié. Hein. Si vous avez des soucis physiques, ça peut être n'importe quoi. Hein. Vous avez des soucis pour le service, justement. Mm. Si vous avez mal de pousser sur les jambes, parce que moi j'ai senti, en le regardant, j'ai vu qu'au niveau des jambes, ça jouait pas, quoi. Donc forcément, au niveau du service, vous n'arrivez pas à pousser comme d'habitude, donc vous n'arrivez pas à mettre l'énergie qui est nécessaire pour arriver au niveau que vous avez l'habitude d'atteindre. Et après, dans le jeu, dans l'échange normal de fond de cours, c'est exactement la même chose. Si les jambes ont des soucis, vous n'arrivez pas à produire votre meilleur tennis. Hein. Ça, il n'y a pas de miracle, quoi.
Aujourd'hui, pour lui, se frotter à un Novak Djokovic qui va sans doute se retrouver sur sa route s'il va loin, c'est trop fort au vu de ce qu'a montré le Serbe cette année.
Alors bon, Roger, on le connaît tout d'un coup sur... même si on l'attend pas du tout, puis on le sent un peu mal, tout d'un coup, il sort un truc que personne s'y attend. Donc moi, je dis, c'est toujours possible pour lui de battre tout le monde. Maintenant, logiquement, sur les résultats et les performances faites durant cette fin de saison, c'est... Djokovic est clairement favori quoi, sur un duel entre les deux.
En un mot, il doit encore aller chercher quoi, Roger, à 37 ans, le centième, le record de Connors qui est à 109, ça paraît loin quand même.
Après, c'est comme Marc Rossel le disait la semaine dernière, ça dépend un petit peu de ses choix, de ce qui va... personne n'est convaincu de la chose, mais il pourrait aller chercher le record de Connors en allant faire des plus petits tournois. Mais je ne pense pas que c'est du tout l'intention de Roger. Lui veut se concentrer sur les gros tournois, les gros événements. C'est comme il l'a dit après sa victoire à Bâle, il joue encore au tennis pour ce genre d'émotions-là, quoi, qui sont pour lui... c'est un leitmotiv, c'est extraordinaire de pouvoir encore vivre à cet âge-là des émotions pareilles devant son public à Bâle. Donc c'est pour ça qu'il le fait. Donc il va encore faire les grands tournois en essayant de se préparer au mieux et de se préserver le plus possible physiquement et pour arriver, si possible, encore en gagner quelques-uns.
Et on verra si c'est pour la fin de l'année. On a compris que vous en doutiez, mais on va essayer quand même de voir si Roger, déjà ce soir contre Nishikori, va se qualifier pour les demi-finales du Masters 1000 de Paris-Bercy. Merci beaucoup Alexandre Strambini d'avoir été avec nous dans Cap Sport.
Merci à vous.
Merci beaucoup, très bonne soirée. Cap Sport.